Alors, adapter la formation aux besoins du marché, c'est une préoccupation permanente. La nomenclature des métiers est régulièrement révisée, réajustée, M. Mebarki?
Oui, forcément. C'est une stratégie au niveau du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Et puis, c'est la politique du gouvernement bien inscrite dans son plan d'action qui a été adopté par le Parlement. C'est notre rôle de faire de telle sorte à ce que les formations qu'on dispense, les spécialités qu'on développe, soient adaptées aux besoins du développement socio-économique du pays.
Alors, pour son adaptation, vous travaillez étroitement avec les secteurs employeurs, ministère du Travail, ANEM et aussi le secteur économique.
On travaille avec tous les acteurs du secteur économique. D'abord avec les entreprises, à travers le conseil de partenariat que nous avons avec les grandes entreprises du pays au niveau national et qui a pour mission de définir les formations à développer, définir les besoins, les grandes lignes des besoins en spécialité et en domaine d'activité à développer et qui aussi intervient avec nous, avec le secteur pour la définition des contenus à y mettre. On travaille avec les secteurs d'activité, je veux dire les ministères, de façon générale, par des conventions qui nous permettent de définir les besoins, les volumes et les chiffres à développer, qui nous permettent de situer un peu les bassins de l'emploi en fonction de chaque spécialité et qui également interviennent au niveau de la définition des programmes et des contenus. Cette mission, on la développe à travers, j'ai dit, des conventions de partenariat. En septembre 2014, 15 conventions ont été signées avec les différents ministères, c'est-à-dire avec les différentes filières d'activité économique.
Mais quels sont les secteurs que vous privilégiez aujourd'hui? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils accompagnent la dynamique du gouvernement dans certains secteurs par rapport à ce contexte particulier pour sortir un peu de la dépendance des hydrocarbures?
Notre préoccupation est de développer à chaque fois des formations et des spécialités qui sont utiles pour le développement économique, mais utiles aussi pour les porteurs de ces diplômes, parce que quand on répond à des besoins qui existent dans le marché de l'emploi, on facilite l'employabilité des jeunes qui prennent ces diplômes et qui sont formés chez nous. Donc c'est dans toutes les disciplines qui sont exprimées à travers la demande. J'ai parlé des ministères, j'ai parlé des grandes entreprises nationales, donc le travail qui se fait au niveau national, mais également au niveau des wilayats, il y a des commissions de wilaya qui sont présidées par les wali et qui tiennent compte un peu de la demande en emploi, de la demande en formation qui répondent aux activités et aux besoins spécifiques de la région et de la wilaya. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Bien entendu, également il y a un autre critère, c'est que les formations qu'on développe doivent être en symbiose avec le développement des techniques et des technologies universelles, parce que il ne s'agit pas de former pour former, mais de former des gens qui peuvent intervenir directement dans la machine économique et qui peuvent donc diriger, s'occuper de tous les équipements qui sont à leur disposition.
Mais est-ce
également
que vous
un autre critère pour terminer ma réponse à votre question. Bien sûr qu'il y a une adaptation en fonction de la définition de la nouvelle politique ou de nouvelles orientations qui concernent la politique économique du pays. Par exemple, il a été décidé récemment, et suite à la chute des prix du pétrole, que des domaines auront plus d'importance dans la politique économique du gouvernement, à savoir l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Donc un effort particulier est fait pour développer ces domaines et répondre à leurs besoins en ressources humaines qualifiées et en cadres moyens, techniciens et techniciens supérieurs.
Mais est-ce que vous tenez compte aussi des besoins qui sont exprimés pour les besoins dans certains secteurs, comme par exemple dans l'agriculture et le BTPH? Entre les deux, il y a pratiquement 1,5 million d'emplois à pourvoir aujourd'hui. Dans l'agriculture, c'est 500 000 et on parle aussi d'absence de main-d'œuvre qualifiée dans ces deux domaines.
Oui, enfin, on parle généralement d'absence de main-d'œuvre qualifiée pas uniquement pour ces secteurs, mais de façon particulière pour ces secteurs. Mais je voudrais quand même corriger que la main-d'œuvre dont on parle n'est pas forcément une main-d'œuvre qualifiée. Il y a effectivement des besoins en main-d'œuvre en agriculture et en BTP, comme vous dites. Ça, c'est une réalité. Les entreprises, les agriculteurs se plaignent de ce manque de main-d'œuvre, mais c'est pas forcément une main-d'œuvre qualifiée. Juste pour dire que nous, on forme quelque 220 à 240 000 diplômés annuellement, tous diplômes confondus, dans toutes les spécialités confondues. Vous avez cité le bâtiment et travaux publics. Nous avons actuellement, au cours de l'année 2015-2016, plus de 75 000 stagiaires qui sont inscrits dans le bâtiment, plus de 20 000 qui sont inscrits dans les travaux publics. Je pense que c'est quand même une prise en charge correcte au niveau de notre ministère pour répondre à ces besoins en main-d'œuvre qualifiée et en techniciens et techniciens supérieurs dans les cadres moyens pour répondre à ces besoins. Il se trouve que ce n'est pas tous les diplômés qui sortent de chez nous, même dans ces secteurs que vous avez cités, qui trouve du travail. C'est encore une fois pour vous démontrer que l'absence de main-d'œuvre au niveau de ces deux domaines, l'agriculture et les travaux publics et le bâtiment, c'est lié à d'autres considérations. D'abord, c'est pas forcément la main-d'œuvre qualifiée dont on a besoin dans ces secteurs. Et ensuite, vous savez, nos jeunes, il faut le dire, ont toujours des appréhensions pour aller vers du travail, pas manuel, mais du travail qui est considéré comme pénible. Et les travaux publics et le bâtiment, tout comme l'agriculture, sont considérés comme ayant quand même quelques degrés de pénibilité. Et c'est pour ça que nos jeunes ne vont pas. Par exemple, pour l'agriculture, nous avons dans plus de 40 wilayas des établissements entre les CFPA et les INSFP qui forment en agriculture, dans tous les diplômes et dans toutes les spécialités liées à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Vous savez que sur les 700 000 que nous avons inscrits cette année, entre 700 000 élèves et stagiaires que nous avons inscrits en septembre 2015, seulement 4% se sont inscrits vers l'agriculture. Et c'est là où vous êtes en train de dire que c'est là où il y a des possibilités d'emploi.
Mais est-ce qu'on peut considérer, vous dites, vous avez donné quelques indicateurs par rapport aux jeunes qui sont formés au niveau de vos centres de formation, que ce soit dans le bâtiment ou l'agriculture, vous dites que les jeunes ne trouvent pas systématiquement de l'emploi une fois sortis de vos instituts, vous parlez de la pénibilité, entre autres, peut-être problème qui est soulevé par les jeunes aujourd'hui, mais est-ce que vous avez un retour d'information, c'est-à-dire le bilan d'insertion sur le marché du travail qui vous permette un peu mieux de réajuster peut-être les formations? Et sur la pénibilité, on va y revenir dans un moment.
Mais attendez, j'ai pas dit tout à fait ça, ou je me suis fait mal comprendre. J'ai dit parmi les 240 000, par exemple, qui sont sortis en septembre 2014, il y a encore quelques-uns qui n'ont pas trouvé du travail. Mais, justement, c'est une bonne question, parce qu'on est en train de travailler avec le ministère du Travail et de l'Emploi pour résoudre ce problème d'adaptation de la formation à l'emploi et aux besoins de l'emploi. Et on a eu un document, un très bon document qui a été fait par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Je suppose que c'est l'ANEM qui a dû le faire. On nous donne des chiffres. Malheureusement, il n'est arrivé qu'il n'y a pas longtemps. Donc, on est en train de l'exploiter. Alors, sur les 240 000 qui sont sortis l'année dernière, il y a seulement 100 000 qui se sont inscrits à l'ANEM pour demander un emploi. Sur les 100 000 qui sont inscrits, il y a à peine 30 000 qui ont eu des difficultés de trouver un travail au bout de 6 mois. Donc c'est un record, c'est quelque chose qu'on sentait, qu'on touchait un peu du doigt, mais qu'on n'arrivait pas à démontrer avec des chiffres et des statistiques. Et nous nous proposions même de faire une convention avec ce ministère pour travailler de façon encore plus précise. Maintenant, ça se précise. Les diplômés de la formation et de l'enseignement professionnel trouvent très facilement de l'emploi. Je vous dis, sur les 240 000, à peine 30 000 ont eu des difficultés au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, n'étaient pas encore recrutés. Donc moi, j'estime que c'est un très bon chiffre et que les diplômés de la formation professionnelle n'ont pas beaucoup de difficultés à s'insérer dans le monde du travail.
Mais est-ce que ce document remis par l'ANEM vous permet d'avoir aussi des indicateurs sur les métiers à privilégier à l'avenir, ceux recherchés par les jeunes, le profil recherché?
Bien entendu, On a une liste que nous sommes en train d'exploiter, une liste de spécialités où justement les demandeurs d'emploi sortant de la formation professionnelle restent plus de 6 mois pour trouver du travail. Bon, il y a quelques exemples, je ne vais pas les citer ici, mais c'est une très bonne indication. Ça veut dire que pour les autres spécialités, il n'y a aucun problème. Les diplômés que nous formons trouvent très facilement, s'intègrent très facilement dans le monde du travail.
Est-ce que vous êtes en train de travailler en connaissance aussi du marché de l'emploi maintenant, avec ces indicateurs qui sont à votre portée maintenant ?
Marché de l'emploi, je l'ai dit tout à fait au départ de cette émission, il est défini par les utilisateurs eux-mêmes.
C'est la politique du gouvernement également.
C'est dans le cadre de la politique du gouvernement, c'est dans le cadre des conventions que nous sommes en train d'avoir et de développer avec les secteurs d'activité, c'est les conventions que nous sommes en train de décider au niveau local avec des entreprises, avec les différents secteurs d'activité. C'est eux qui décident des spécialités à développer, de la demande de l'emploi, de la demande et des besoins du secteur économique et social.
La création aujourd'hui des pôles d'excellence, est-ce que ça va permettre encore d'affiner, d'améliorer la qualité de l'enseignement pour ces filières qui sont exigées et demandées aujourd'hui ?
Oui, j'avais cité très rapidement la donne et le paramètre, l'intégration et l'adéquation avec le développement des techniques et des technologies pour ouvrir ou ne pas ouvrir telle ou telle formation. Et ce type d'établissement que nous sommes en train d'appeler pour le moment, au départ, les centres d'excellence, répondent un peu à cette équation, à ce critère. C'est des établissements qui ne sont ni des CFPA ni des NSFP, mais entre les deux, puisqu'ils forment à tous les niveaux de formation, du niveau 1 jusqu'au niveau 5, et qui sont montés et développés avec des entreprises leaders dans leur domaine. On a travaillé dans le domaine de l'énergie et de l'électricité avec Schneider. Nous sommes en train de travailler avec le ministère des TIC et avec Algérie Télécom pour développer également un centre d'excellence dans le numérique, dans la téléphonie. Nous sommes en train de travailler avec le ministère du Travail, de l'Agriculture pour développer ce qu'on appelle des centres d'excellence en agriculture. C'est un peu les anciennes écoles d'agriculture, c'est un peu les lycées agricoles de France qui sont des exemples réussis dans ces pays-là et que nous voulons développer avec le ministère de l'Agriculture, avec les chambres d'agriculture locales et avec les partenaires économiques, avec des entreprises qui travaillent dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. L'avantage, c'est que les moyens dont ils disposent, eux, et les moyens dont nous disposons, sont mis en commun. L'avantage, c'est que les programmes, les contenus sont définis ensemble. Et l'avantage, c'est que ces établissements peuvent jouer un rôle de leader avec les autres établissements qui forment dans le même domaine.